Chapitre 16.
2 octobre 1998, 11h08. Malvina repoussa derrière elle la fenêtre, la main emmitouflée dans un torchon. Elle tassa le linge dans la poche de sa veste, elle avait tout essuyé avec, qui pourrait bien remarquer qu'il en manquait un dans la pile du tiroir de la cuisine de Grand-Duc. Fière d'elle, elle se faufila lentement dans le jardinet pour qu'on ne la remarque pas de la rue. Elle laissa passer 2 voitures, dissimulées dans l'angle de la maison. Une fois la voie libre, elle enjamba le petit muret de pierre, haut d'à peine 1 mètre. Elle était dans la rue. Personne ne l'avait vue. Personne ne pourrait jamais savoir qu'elle s'était introduite chez Grand-Duc. Malgré ce que tout le monde pensait, elle n'était pas si stupide. Elle se retourna. Un dernier détail la gênait. Du trottoir, en regardant bien, on pouvait repérer la vitre de la fenêtre qu'elle avait brisée, en bas à droite, ce qui lui avait permis d'ouvrir la fenêtre en passant le bras. Elle haussa les épaules. Ce n'était pas très important. Elle avança à pas rapide dans la rue de la Butte-aux-Cailles. Elle ne devait pas rester là, à découvert. Le vitral pouvait arriver d'une minute à l'autre. Elle avait une idée pour l'attendre et le coincer, ce salaud. Elle avança encore un peu, puis prit dans sa poche une clé de voiture et déclencha l'ouverture automatique. Malvina glissa ses 40 kilos dans la petite voiture. Son véhicule lui permettait de trouver une place à peu près partout dans Paris, y compris à quelques dizaines de mètres de chez Grand-Duc. Il n'était pas très discret, mais Vitral n'avait aucun moyen de connaître cette voiture. Malvina s'enfonça comme elle put entre le siège avant et les pédales de la Rover Mini. Malgré l'étroitesse de l'habitacle, si elle se baissait, le passant sur le trottoir pouvait tout de même croire la voiture inoccupée. Malvina, au contraire, aussi bien devant elle que dans le rétroviseur, pouvait contrôler toute la rue sans changer de position. La planque idéale. Si Vitral arrivait par la station Corvisart, il monterait par le bout de la rue, sans passer devant la Mini, et elle, au contraire, le repérerait de loin. Parfait. Elle se contorsionna et prit dans sa paume le Moser L110. Elle le déposa à portée de main, juste sous le siège conducteur. Une seule chose gênait encore Malvina. La rue de la Butte-aux-Cailles était pour l'instant encore trop passante, surtout cette boulangerie à 50 mètres, pleine de clients qui n'arrêtaient pas d'entrer et de sortir. Beaucoup trop de témoins. Mais il n'était pas tout près. Au moins à 50 mètres, elle aurait le temps d'agir. Elle repensa aux ordres de sa grand-mère. « Tu l'observes, tu le suis, tu ne fais rien d'autre. Tu me téléphones dès que tu l'as repéré. » Malvina ne put empêcher sa main de glisser sous le siège, de toucher le Moser, comme pour vérifier qu'il était encore bien là. Le contact du métal froid lui donna de l'assurance. À bien y réfléchir, à 24 ans, était-elle encore obligée d'obéir à sa grand-mère ?
Marc avançait presque en aveugle dans les interminables couloirs de la station Montparnasse, essayant malgré tout de ne pas perdre des yeux la direction de la ligne 6. Lily portait la bague, le saphir clair de la couleur de ses yeux. Nicole la lui avait donc offerte 3 jours auparavant, pour ses 18 ans. Sa grand-mère avait respecté le contrat. Elle n'en avait parlé à personne, jamais, pas même à Lily. Mais elle avait offert la bague. Marc savait désormais ce que cela signifiait, quel aveu terrible il représentait pour sa grand-mère. Il fallait qu'il l'appelle, il fallait qu'il lui parle. Il allait le faire un peu plus tard. Pour l'instant, l'urgence, c'était Lily. De sa main libre, tout en continuant de marcher, il pianota sur les touches de son téléphone portable, rédigeant un court SMS. « Lily, rappelle-moi, merde. Marc. » Il se promit de recommencer l'opération dans 1 heure, de harceler Lily tant qu'elle ne répondrait pas. Où pouvait-elle bien être ? Il repensa à l'avion miniature dans son sac. Cette idée de départ à l'autre bout du monde était-elle sérieuse ? Oui. Lily avait les moyens financiers de partir vivre dans n'importe quel coin de la planète, dès ses 18 ans, y rester des années. Tout en slalomant entre les voyageurs, Marc se récitait les dernières lignes du récit de Crédule Grand-Duc. Le compte en banque de Lily, le cadeau empoisonné de Mathilde de Carville. La vieille savait ce qu'elle faisait. Au fil des années, Marc avait fini par se persuader que c'était simplement l'argent qui avait creusé cette différence entre Lily et lui, qui expliquait ses sentiments anormaux, cette attirance contre nature qui ne peut exister entre un garçon et une fille liés par le sang des mêmes parents. L'argent expliquait tout. Pourtant, au fond de lui, une voix lui avait toujours soufflé qu'il n'en était rien. Non, non, la voix avait raison, l'argent n'y était pour rien. Il avait désormais la preuve que sa grand-mère, même si elle n'en avait jamais rien montré, pensait comme lui. Lily portait la bague des Carville. Sa grand-mère avait avoué en la lui offrant. Lily n'était pas sa sœur. Ils étaient libres. Marc se sentait porté par une sorte d'euphorie. Il se glissa en souplesse dans la rame direction Nation. Il bouscula quelques voyageurs pour se faufiler jusqu'à l'allée centrale de la voiture, afin de gagner un peu de place, un maigre espace vital, suffisant pour pouvoir ouvrir le cahier. 5 stations avant Corvisart, à 2 pas de la butte aux Cailles, chez Grand-Duc. Le temps de lire encore quelques pages. Journal de Crédule Grand-Duc. C'est là que j'entre en scène, enfin. Crédule Grand-Duc, détective privé. Je me suis fait attendre, non ? J'arrive un peu après la bataille, je vous l'accorde. C'est même là tout mon problème. Mathilde de Carville pénétra dans mon bureau à Belleville, rue des Amandiers, le lendemain de sa rencontre avec Nicole Vitral. Elle me donnait l'impression d'être déguisée en noir, d'avoir mis toute sa douleur dans ses vêtements. Je crois que cet entretien avec Nicole Vitral lui avait énormément coûté. Elle avait pris la décision, seule, sans en parler à son mari. Mathilde de Carville s'était humiliée sur le front de mer de Dieppe, mais elle avait compris que seul ce sacrifice pouvait faire fléchir Nicole Vitral. Il fallait que Nicole Vitral se sente la plus forte à ce moment-là, sinon jamais elle n'aurait accepté d'ouvrir un compte bancaire au nom de Lily. Plus jamais. Plus jamais une telle humiliation, avait dû se dire par la suite Mathilde de Carville. Elle l'avait payé cher, la paix de sa conscience. Beaucoup plus qu'un chèque de 100 000 francs par an pour Lily. Alors, après cette rencontre de Dieppe, Mathilde de Carville se glaça. Lorsqu'elle entra dans mon bureau, elle n'était plus qu'un glaçon, noir et poli. Elle s'avança.
« J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Grand-Duc. »«
Ah !» Elle se présenta, et je fis vaguement le lien avec cette affaire dont les radios et les télés avaient parlé pendant quelques semaines, et dont je me foutais royalement à l'époque.
« Monsieur Grand-Duc, vos qualités sont, paraît-il, la discrétion, la ténacité, la patience, la rigueur. Ce sont celles que j'exige. L'affaire que je vous propose est simple. » Reprendre l'ensemble du dossier de l'accident du Mont-Terrible, depuis le début, tous les détails, un par un, en trouver d'autres si possible.
À l'époque, même si je n'étais encore qu'un détective privé parmi des dizaines d'autres, je commençais à me faire une relative réputation. J'avais résolu, une à une, les petites affaires que l'on m'avait confiées, le coup des casinos sur la côte et quelques autres. Je n'avais pas encore connu l'échec, comme le boxeur qui ne gagne que des petits combats, mais qui les gagne tous et finit par se croire invincible. J'ignorais pourquoi elle m'avait choisi, mais pourquoi pas moi, après tout. Peu importe, je n'allais pas laisser passer l'occasion. Mathilde de Carville s'avançait encore. Je restais assis, je ne suis pas très grand, à vue de nez, elle faisait bien 5 centimètres de plus que moi. Je me redressai tout de même sur ma chaise et je pris un air important. « Mais c'est une affaire complexe, madame. Une affaire qui ne peut se traiter à la légère. Une affaire qui prendra du temps. »«
Je ne suis pas venue ici pour marchander, monsieur Grand-Duc. »
Et volant, elle se tint droite devant moi, m'écrasant de son ombre noire. Trop tard pour me lever.
« Monsieur Grand-Duc, ma proposition est à prendre ou à laisser. Je suis persuadée que je n'aurai pas de mal à trouver un autre enquêteur, mais je pense que vous l'accepterez. » À partir d'aujourd'hui, vous recevrez 100 000 francs par an, pendant 18 ans, jusqu'à ce que Lise Rose, ma petite fille, si elle est encore vivante, devienne majeure. À la fin septembre 1998. Le 30, et non le 27, puisque la justice en a décidé ainsi.
100 000 francs annuels. multiplié par 18. Je n'arrivais pas à compter les zéros. Il formait dans mon crâne comme un long collier de perles. Pendant 18 ans, une véritable rente de fonctionnaire pour un détective qui n'aurait plus de privé que le titre. Sauf que, j'ai beau porter ce prénom stupide de crédule, j'avais besoin de détails. Oui, je vous le confirme, aussi étrange que ce soit, crédule est mon véritable prénom. Pour une telle somme, madame, qu'exigez-vous exactement de moi? Si au bout de 18 ans je n'ai rien trouvé, je vous rembourse? Question prémonitoire, j'aurais dû me méfier. Oui, après tout, je mérite bien mon prénom, crédule. L'ombre noire se pencha davantage, m'écrasant encore un peu plus.
Monsieur Grand-Duc, cette affaire reposera sur ma confiance en vous, uniquement sur elle. Vous n'avez aucune obligation de résultat. Mais j'exige, par contre, que vous mettiez en œuvre tous les moyens possibles pour la résoudre. Je souhaite que rien, aucune piste, aucune hypothèse ne soit laissée au hasard. Vous aurez tout le temps, tout l'argent pour cela. S'il existe une preuve, quelque part, de l'identité de la rescapée du Mont-Terrible, je veux qu'elle soit découverte. Que je sois très claire, monsieur Grand-Duc, je veux découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, y compris si elle ne m'est pas favorable.
Une sorte d'immense vertige commençait à me saisir. Et vous pensez qu'une telle enquête prendra 18 ans?
Vous serez payé pendant 18 ans. Vous disposerez donc de toutes ces années pour découvrir la vérité. Je n'exige pas de vous que vous vous consacriez exclusivement à cette affaire pendant toutes ces années. Je vous fournis simplement tous les moyens possibles d'aller au bout de l'enquête. Le temps et l'argent.
Et si je découvre cette vérité en 5 mois? Naïf, oui. C'est naïf, pas crédule, que ma mère aurait dû me choisir comme prénom.
Vous ne comprenez pas, monsieur Grand-Duc? N'ai-je pas été suffisamment clair? Vous serez payé pendant 18 ans, quoi qu'il arrive. Il s'agit d'un contrat moral entre nous, monsieur Grand-Duc. J'exige simplement de vous que vous mettiez tout en œuvre pour découvrir l'identité de la rescapée. C'est tout ce qui compte pour moi.
Elle se penchait toujours vers moi. La croix de bois qui pendait à son cou se balançait au-dessus de mon nez. Elle continua.
Monsieur Grand-Duc, je me réserve bien entendu le droit de rompre unilatéralement à tout moment ce contrat si j'avais l'impression que vous ne jouiez pas le jeu, si j'avais l'impression que vous profitez de la situation. Mais cela ne se produira pas, n'est-ce pas? On m'a parlé de vous comme d'un homme d'honneur.
Pas de contrat. Vous imaginez, j'étais tombé sur une vieille allumée qui ne savait pas comment dépenser sa fortune. Le miracle, une folle. Jusqu'où était-elle prête à aller? Il faudra se rendre en Turquie, fis-je. Longtemps.
En plus de vos honoraires annuels, toutes vos notes de frais seront prises en charge.
Pousser le bouchon encore plus loin? Je ne parle pas le turc. Je n'y arriverai pas tout seul.
Si c'est nécessaire à l'enquête, vous pouvez bien entendu engager des collaborateurs. Leurs frais aussi seront remboursés.
Nom de Dieu. Je n'avais pas posé la question pour rien. J'avais déjà en tête de travailler, au moins au début, en duo avec un gars avec lequel j'avais bourlingué en Asie centrale pendant des mois. Nazim Ozan, le seul type en France que je connaissais qui parlait turc et en qui j'avais à peu près confiance. Mathilde de Carville me fit un premier chèque, une somme colossale pour l'époque, 100 000 francs, et quitta mon bureau aussi sombrement qu'elle était entrée. Je ne fis pas attention à l'atmosphère glaciale que ce reptile froid laissait derrière lui dans la pièce. J'avais l'impression d'avoir remporté le pactole au loto sans même avoir joué. Pour la première fois, mon prénom et mon nom s'accordaient, en harmonie. Crédule, parce que j'y croyais à cette enquête, à la chance qui tourne, au tremplin vers la fortune. Grand-Duc, comme la tournée que je fis pendant 3 jours pour fêter ma chance. Et qui n'entama même pas mes 100 000 francs. Note de frais. Comment aurais-je pu deviner à ce moment-là que je tombais dans un puits sans fond, que la lumière qui m'attirait alors m'entraînait dans le néant, un trou noir, un tremplin au-dessus du vide ?